Habemus Papam.
Milieu du XIVe siècle. Les papes ont quitté Rome depuis près d'une cinquantaine d'années pour s'installer en Avignon, lorsque Guillaume de Grimoire monte sur le trône de pierre sous le nom de Urbain V. Antoine de Rony, auteur d'un ouvrage sur Urbain V, un pape du Gévaudan, nous parle des origines de ce pape français, sixième des papes d'Avignon.
C'est un pape qui est originaire de la Lozère, du Gévaudan, à la limite des Cévennes. Il est né à Grisac, près de Mende, dans le diocèse de Mende, vers 1310. On n'est pas tout à fait certain de sa date de naissance. Il appartient à une famille qui est noble et puissante. Et très jeune, il fait preuve de qualités intellectuelles rares, ce qui fait que ses parents décident de l'envoyer faire des études à Montpellier et puis ensuite à Toulouse. Et il va suivre donc des études de droit civil et puis de théologie. Et sa carrière va rapidement se profiler, une brillante carrière de juriste. Et il se trouve qu'il y a une espèce de coup de théâtre, puisque, alors même qu'une voie royale s'offre à lui, eh bien, il décide de renoncer au monde pour s'engager dans la vie monastique. Et il va effectivement prendre l'habit de bénédictin au prieuré de Saint-Sauveur. Il va recevoir les ordres, il va faire profession à Saint-Victor de Marseille. Et puis, la suite de sa vie n'est ensuite qu'une succession de postes brillants, de grades tout à fait remarquables dans la hiérarchie ecclésiastique, jusqu'à son élection à la papauté en 1362.
Pourtant, l'élection de Guillaume de Grimoire sur le siège de Saint-Pierre est une surprise, en premier lieu pour l'intéresser.
En réalité, au moment où le vote des cardinaux se porte sur lui, il n'est ni évêque ni cardinal. Il est simplement moine bénédictin. En réalité, comme les cardinaux n'arrivent pas à s'entendre sur le choix du futur pape, eh bien, on pense à une personne étrangère au conseil cardinaliste. Et effectivement, le choix se porte sur Guillaume de Grimoire qui ne s'y attendait absolument pas.
Le nouveau pape va alors avoir une vision très européenne de son action.
Il va s'efforcer d'être un arbitre impartial dans ce conflit long et pénible qui est celui de la guerre de Cent Ans. Et puis, ça c'est un autre versant de son action politique, il favorise une réconciliation entre sacerdoce et empire en recevant à Rome l'empereur Charles IV, tout en essayant de juguler ses velléités d'expansion en Italie du Nord.
Urbain V va également œuvrer pour la paix dans une action œcuménique visant à rapprocher les églises d'Orient et d'Occident.
Il va tout faire pour favoriser une réconciliation avec l'Église d'Orient. Il accueille à Rome l'empereur grec Jean Paléologue qui proclame solennellement sa fidélité à la foi de l'Église catholique. Il me semble que c'est un aspect vraiment important de son pontificat qui a été marqué par un souci de paix, d'union. Ce souci de paix, d'union est aussi associé à sa politique missionnaire puisqu'il va multiplier dans le monde des missions jusqu'en Chine où Urbain V a créé en fait le premier archevêché de ce qui est aujourd'hui Pékin.
D'un point de vue spirituel, le pape Urbain V se pose en réformateur, dans une église qui en a bien besoin.
Le relâchement est alors généralisé, à la fois d'ailleurs au sein de la curie et puis dans les différents organes de l'église. Et il faut prendre rapidement un certain nombre de décisions. Par exemple, Urbain V va essayer de réglementer la résidence des ecclésiastiques. Les curés, les évêques, les cardinaux reçoivent l'ordre de quitter la cour pontificale pour aller résider dans leur diocèse d'origine. Il va aussi rédiger une constitution qui est aujourd'hui perdue, qui s'appelle la constitution Horribilis, enfin du nom, c'est le premier mot de la constitution. Et par cette constitution, Urbain V va interdire le cumul des bénéfices. Cumul des bénéfices qui ne faisait que favoriser l'absentéisme des ecclésiastiques. Il va lutter contre la simonie, contre l'usure. Il va lutter contre le luxe, contre la débauche, contre le concubinage des ecclésiastiques, contre les ecclésiastiques qui, notamment à l'époque, ne portaient pas systématiquement l'habit religieux, etc. Donc il va remettre vraiment beaucoup d'ordre dans l'Église, notamment à la cour papale d'Avignon.
De fait, recherche de la paix ou souci de moralité, on peut lire dans une grande partie des actions d'Urbain V l'influence de sa vocation monacale.
La vocation monacale de Guillaume de Grimoire, et plus précisément sa vocation bénédictine, c'est une composante absolument essentielle de son pontificat. En devenant pape, Guillaume de Grimoire n'a pas échangé sa bure contre une tiare. Tout au long de son pontificat, d'abord, il a conservé son habit monastique. Plus encore, je dirais qu'il a respecté autant que possible, malgré le rythme important de ses activités quotidiennes, un certain rythme monacal. Un autre aspect tangible de cette influence, c'est le fait qu'Urbain V va s'entourer de collaborateurs qui sont assez souvent issus d'ordres religieux. Il ne va pas hésiter, par exemple, à élever au cardinalat des religieux, contrairement à la coutume établie.
Mais le pontificat d'Urbain V sera aussi marqué par une tentative de retour de la papauté à Rome en 1367.
À strictement parler, Urbain V, c'est l'avant-dernier pape d'Avignon. Le retour à Rome du Saint-Siège, ça a été pour lui une priorité de chaque instant. C'est une volonté qui s'inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs, parce que la présence du Saint-Siège à Avignon a toujours été pour les papes une situation provisoire. Alors, qu'est-ce qui fait que Urbain V est le pape qui parvient à entreprendre cette chose difficile? Les conditions sont réunies en 1367. La première condition, c'est la suspension officielle, avec ce qu'on appelle le traité de Brétigny, des hostilités entre la France et l'Angleterre. C'est-à-dire que la présence du pape comme arbitre de la paix n'est plus justifiée. Et puis la deuxième condition, c'est la pacification de l'Italie. Donc il n'y a plus tellement de raison de rester à Avignon, et c'est la raison pour laquelle, dès l'instant où Urbain V voit que les choses sont possibles, il part à Rome. À cela s'ajoute une circonstance un peu plus particulière, c'est l'insécurité croissante dans la vallée du Rhône, qui est ravagée régulièrement par ce qu'on appelle des compagnies.
Pourtant, 3 ans plus tard, Urbain V va rentrer en France, où il décédera.
Il va être obligé de revenir à Avignon, donc en 1370. Il y a peu de documents officiels qui rendent compte d'une raison objective. Urbain V a allégué officiellement la nécessité de répondre à l'urgence d'une situation qui était redevenue critique entre la France et l'Angleterre. Le fait est que quelques semaines après son retour à Avignon, il va décéder, et c'est ce qui fait que on retient parfois de façon assez rapide du pontificat d'Urbain V l'échec de son entreprise de ramener le Saint-Siège à Rome. Je crois que c'est assez injuste de voir les choses de cette façon-là.
C'était Antoine de Rony, auteur d'un ouvrage sur Guillaume de Grimoire, le bienheureux Urbain V.